Déborah s'est levée comme une mère. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir à vos côtés, si je parle trop fort, vous me le dites, d'avoir à vos côtés des personnes qui, lorsqu'elles sont là, vous vous sentez plus fort. Lorsqu'elles sont là, vous vous sentez capable. Déborah est ce genre de personne. Nous verrons comment, dans son attitude, elle va devoir décider de se lever comme une mère. En introduction, je ne sais pas si vous avez des batailles, des combats à mener dans vos vies, alors le livre des juges est pour vous. Excusez-moi, le vent fait bouger mes pages. Alors, le livre des juges est pour vous. Le livre des juges nous montre aussi comment remporter des combats. Remporter des combats dans le chapitre que nous allons lire, ce sera même lorsque nos forces nous manquent. Remporter des combats, même quand on est un peu responsable de la situation dans laquelle on est. Remporter des combats, même quand on n'est pas préparé à ce combat. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le mène pour nous. Autrement dit, même dans la pire des situations, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? C'était un texte que je me récitais petit. Moi, j'avais beaucoup peur des chiens. Et à chaque fois, je me disais, si Dieu... Non, ma grande sœur me disait, je l'ai peut-être déjà dit, ma grande sœur me disait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et je lui disais, ah ben les chiens. On a une capacité à voir les choses. Hein. J'ai du mal à voir ce qui n'est pas visible. Et peut-être vous aussi. Dans le contexte que nous allons lire, Ehud, l'un des juges, a remporté une victoire en tuant le roi de Moab. Il s'en est suivi 80 années de paix dans le pays. 80 années, c'est toute une vie. Toute une vie où, effectivement, certaines personnes meurent. Il est important de transmettre aux plus jeunes, parce que nous allons partir. Et ce peuple, après 80 années de paix, où finalement tout va bien, on oublie un petit peu Dieu, on le met un petit peu de côté. Alors ce peuple, de nouveau, tombe dans ses travers. Il a oublié les commandements, les lois, les ordonnances, ou n'a pas connu, ou a mis de côté. S'ensuit un autre libérateur, on le voit dans le chapitre 3, verset 31, il y a très peu de phrases. Il s'appelle Shamgar et on sait très peu de choses pour lui, excepté qu'il a tué 600 Philistins avec un aiguillon de bœuf. Il libère Israël. C'est un fait extraordinaire. Et pourtant, le peuple d'Israël ne va pas changer d'attitude, il va continuer à faire ce qui déplaît à Dieu. Il semble que parfois, Dieu agit dans nos vies de manière puissante pour nous, faire réagir, mais lorsqu'on est loin de Dieu, lorsque l'on est parfois que dans des pratiques, sans relation réelle, on est peut-être aveugle, on ne discerne pas ce qu'il fait. Deutéronome 29, verset 3 nous dit « Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Il nous faut demander à Dieu le renouvellement de notre intelligence afin que notre cœur ne soit pas insensible quand sa main agit, que nos yeux ne soient pas aveugles lorsqu'il répond, que nos oreilles ne soient pas sourdes à sa parole. Dieu donne à qui demande. Demandons-lui le renouvellement de notre intelligence. Alors le peuple fait de nouveau ce qui déplaît à l'Éternel. Comment plaire à Dieu si on ne le connaît pas? Si on ignore même ce qu'il désapprouve? Sûrement pas en se confortant sur notre morale. Notre morale parce que chacun, là, a des niveaux différents. Certains trouvent très bien des choses. Ce qui est mal aux yeux de Dieu, nous l'apprenons dans sa parole. Et si notre désir est de lui plaire, nous devons nous examiner, savoir ce que nous faisons. Est-ce que les actions que nous menons plaisent à Dieu? Je vous invite à lire le chapitre 4, versets 2 à 3. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin. Les conséquences de la désobéissance du peuple d'Israël, c'est qu'il va subir des souffrances. Lorsque nous péchons, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous souffrons. Le roi de Canaan qui régnait à Hatsor, le chef de son armée était Sisra et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Et oui, Dieu a déjà prévenu, s'il désobéit, ce peuple ne sera pas tranquille. Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans le péché, alors il les reprend, il les corrige, il laisse ses ennemis dominer sur eux, le temps qu'ils reviennent à lui. Ici, un ennemi puissant, un ennemi terrible, effrayant. Jabin, roi de Canaan. C'est un ennemi ici qui vient de l'intérieur, Canaan. Un ennemi qui vient de l'intérieur, cela nous apprend que nous avons des combats extérieurs et puis des combats aussi en nous. Nous devons parfois nous battre en nous-mêmes, affronter le doute, la peur, les plaintes incessantes que nos cœurs, notre cœur essaye de nous faire dire, les pensées négatives qui nous assaillent, tous ces ennemis intérieurs. Il nous faut la maîtrise de soi, garder espoir, garder la foi, ne pas se relâcher, continuer à espérer. Ce combat que nous avons entre la chair et l'esprit qui fait rage. Remettre chaque jour toute chose dans les mains de Dieu. Cet ennemi intérieur, ici, à Canaan, est organisé. Il est organisé avec un chef militaire, Sisra. Il est préparé pour faire la guerre. 900 chars de fer. Combien de chevaux par char? Combien d'hommes à pied? Sans compter les hommes à pied. Et ces chars, on le sait, sont comparés à nos tanks modernes. Robustes, armés. Il nous dit que durant 20 ans, cet ennemi va les opprimer avec violence. C'est alors qu'ils vont crier à l'Éternel. Est-ce qu'il peut arriver que, face à certaines situations difficiles à vivre, on reste sans appeler Dieu pendant des années? Peut-être parce que parfois on se dit, est-ce que Dieu peut vraiment quelque chose à ma situation? Ça nous semble si dur, impossible que Dieu puisse faire. même Dieu n'aurait-il pas de solution pour nous au point qu'on ne l'appelle pas à notre secours ? Dans nos problèmes à l'école, dans nos problèmes de recherche de travail, dans nos problèmes au travail, dans ma santé, dans mon célibat, dans mon couple. Il nous faut trouver la force d'appeler Dieu à l'aide. Il est dit, ils crièrent à l'Éternel, alors le plan de Dieu se met en marche. Ésaïe 42, verset 3 nous dit, il ne brisera point le roseau cassé. Au verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Aminoam, de Kedesh Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisra, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Naphtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec eux. En ce même temps, il nous est dit que Héber, le Kénien, s'était séparé de ses compatriotes et avait dressé une tente près de Kedesh. Certains commentaires laissent supposer qu'il aurait peut-être pu avertir le roi de Canaan des activités du peuple d'Israël. Je le cite ici parce que la femme d'Héber, le Kénien, aura un rôle important dans cette histoire. Dans le livre des juges, Dieu choisit 12 libérateurs d'Israël, 11 hommes et une seule femme, Déborah. Déborah qui signifie abeille. Abeille, elle est toujours en activité. Elle butine de fleur en fleur pour le bien de la ruche. Déborah est ainsi toujours en action pour le bien du peuple. Le miel est souvent représenté par des paroles agréables. Douce pour l'âme et santé pour les os. Cela caractérise bien Déborah. Elle est la quatrième juge, et c'est une femme d'exception. Une femme qu'on pourrait dire moderne pour son époque, mais en fait, c'est l'écoute de Dieu qui l'a fait être ainsi, qui l'est fait être ainsi avec son époux. Compte tenu des traditions, de la culture, elle est mariée à un certain Lapidote. Son nom signifie flambeau, torche. Avec un tel nom, on ne peut pas rester dans l'obscurité. C'est un couple harmonieux, un couple qui s'entend, puisque un couple qui s'entend. Je regarde si j'ai lu assez. un couple qui s'entend puisque Déborah règle les histoires d'Israël. Elle est juge, elle s'occupe des litiges entre chacun. Une personne qui s'occupe des litiges avec les autres ne devrait pas avoir des problèmes dans son couple. Notre première église, c'est notre foyer. Nous mettons en pratique la parole pour nous-mêmes avant tout. La parole nous apprend l'amour, la bienveillance entre nous. Et notre famille est le lieu où l'on apprend à vivre ensemble. À une époque où les femmes étaient fortement discriminées, Lapidote, l'époux de Déborah, laisse sa femme exercer ce rôle de juge. Cela ne lui pose pas de problème. Elle s'occupait, comme je l'ai dit, de régler les litiges d'un peuple en détresse. Et tout le peuple montait vers elle. Déborah est une femme avec beaucoup de sagesse, proche de Dieu. Elle est un exemple. Alors que TikTok nous montre des femmes belles, bien habillées, sensuelles. La Bible nous montre un exemple de femme remarquable. Une femme avec beaucoup de sagesse, proche de Dieu. On ne lui connaît pas d'enfant. En tout cas, ce n'est pas noté. Déborah est remplie de qualités et possède aussi le don de prophétie. On l'a bien compris, Déborah fait partie de ces femmes de valeur, comme le rappelle le proverbe 31. Qui trouvera une femme de valeur ? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Déborah est une femme qui craint l'Éternel. Son époux est un homme qui craint l'Éternel. Dieu a entendu le cri de son peuple qui revient à lui. Alors, Dieu donne à Déborah, la prophétesse, une parole pour Barak. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel ? Voilà ce qu'elle lui dit. Comme si Dieu avait déjà parlé à Barak. Peut-être une confirmation. Dieu peut faire cela aussi, confirmer les choses par la bouche du prophète. « Va, prends 10 000 hommes de Nephtali et de Zabulon. » Dieu ici est précis. Il sait par qui commencer le combat. Il sait où aller chercher les combattants en premier. Dieu choisit qui il veut. Le nombre de personnes, 10 000. Par contre, Dieu ne dit pas comment la victoire aura lieu, juste qu'il les livrera entre ses mains. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est l'information que j'aimerais bien avoir. J'aimerais bien savoir comment Dieu va faire les choses, qu'il me prévienne à l'avance. Bon, voilà, il va se passer ci, ça. Ok, bon, on peut y aller. Mais ce n'est pas comme ça que cela va se passer. Dieu demande que nous lui fassions confiance. Barak écoute les paroles de cette femme, en qui il a confiance, il la connaît. C'est Déborah. Il a confiance parce qu'elle n'a jamais failli à sa mission et que ses conseils ont été éprouvés. On reconnaît en elle l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il nous est dit « Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise édifie l'Église. Barak croit en cette prophétie à un détail près. D'accord, mais tu viens avec moi. Dans le combat, une femme. C'est ce que demande Barak. Et on le sait, comme une mère, sans hésiter, Rebecca va répondre. Déborah. C'est bien, vous suivez. Parfois, parce que quelqu'un est fort à nos côtés, nous avons peut-être tendance un petit peu à abuser. Croire plus au prophète qu'en Dieu, ça arrive. Notre Dieu est pourtant omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais nos yeux ont tendance à s'accrocher à ce qu'ils voient. Nous avons tendance à douter lorsque ce n'est pas visible. Barak est de celui-là et de cela. Mais Moïse aussi a eu besoin d'Aaron pour aller parler à Pharaon, pourtant de grands hommes. Et finalement, Barak a au moins la lucidité de voir en la personne de Déborah, bien qu'une femme, sa force. Il a la certitude que Dieu est avec elle. Celle qui puise en Dieu. Pourtant, Dieu est aussi avec lui. Et Dieu n'est pas menteur, il lui a dit. Oui, Dieu va accorder la victoire à ce duo. Verset 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisra, tous ses chars et tout le camp. Sisra descendit de son char, Sisra, le chef militaire, descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshet-Goïm, et toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël, la femme de Héber le Kénien, sortit au devant de Sisra, le chef militaire, et elle lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il quelqu'un ?» tu répondras non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak, poursuivait Sisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisra était étendu mort, le pieu dans la tempe. Dieu a accordé la victoire à ce duo. Au chapitre 5, Déborah et Barak vont chanter ensemble un cantique. Un cantique suite à cette grande victoire. On apprend au chapitre 5 comment la victoire a été obtenue. Au verset 4, je ne l'ai pas noté ici, au verset 4 du chapitre 5, il est dit « Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. » On apprend que Dieu a envoyé une terrible tempête contre les chars. Au verset 21, il est dit « Le torrent de Kizon les a entraînés. » Voilà comment Dieu est intervenu. Il n'a pas dit comment, mais Dieu ne nous laisse pas seuls dans le combat. Dieu combat pour nous. Et c'est encore ici, comme on le voit, Jaël, une femme de Héber le Kénien, qui donnera le coup de grâce à Jabin, roi de Canaan. Il demande de l'eau, elle lui donne du lait caillé, plus lourd, plus soporifique. Épuisé, il s'assoupit. Et ce puissant guerrier, violent guerrier, de la main d'une femme, avec un simple pieu, va être vaincu. Dieu encore utilise le faible pour montrer sa toute-puissance. Et non, aucune gloire pour Barak. Mais Barak est heureux, heureux de cette victoire. Entre Barak et Déborah, aucun conflit. Personne ne dit « c'est grâce à moi ». Une belle entente. Au contraire, nul ne tire la couverture à lui. Déborah, au verset 5, chapitre 5, verset 7, « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. » Ils avaient choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Voilà dans quelles conditions, dans quelles situations Déborah s'est levée. Les chefs étaient sans force. Elle se dira comme une mère après la victoire. Déborah n'a pas une relation forcée. On peut parfois se dire « je suis ton père, je suis ta mère », juste pour écraser, pour dominer. Ce n'est pas le cas. C'est une mère spirituelle bienveillante qui privilégie l'entente, la proximité. Elle n'a pas hésité une seconde à venir en aide. Une attitude, un cœur de mère. Je trouve ça extraordinaire parce que ce n'est pas du tout mon caractère. Je suis plutôt à analyser, à réfléchir à ce qu'il faut, peser le pour, le contre. C'est beau. Heureusement qu'il y a des gens, des mères spirituelles. Nous en avons besoin. 1 Thessaloniciens 2, verset 5, 7, pardon. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu être dans notre, dans notre vie, vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, comme une mère. Cela m'apprend que, en tant que père, nous pouvons, nous aussi, avoir cette attitude de mère. Le père, il est plutôt à dire, allez, vas-y tout seul, je vais devant, mais suis-moi. Et puis, des fois, on a vraiment besoin d'être porté. C'est ce que Barak a eu besoin. Il n'avait pas les forces par lui-même. Il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. Levons-nous parfois comme des mères pour les plus jeunes. Ayons cette attitude qu'avait Déborah. Elle a plus d'expérience dans la foi, plus de saisons passées, une intimité avec Dieu. Elle peut soutenir. Si une mère porte un enfant 9 mois, une mère spirituelle porte les fardeaux. Pardon. Ce texte nous apprend que nous ne sommes pas obligés de nous battre seuls. Que Dieu ne nous reproche pas nos faiblesses. Que parfois, tout seul, on n'a pas les forces. Et Dieu place à nos côtés des mères spirituelles. Je vais m'arrêter là. Amen.